Le journal est présenté par Anaïs Feuga. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le rouge et le blanc à nouveau en masse dans les rues de Minsk. Nouvelle mobilisation des opposants au président biélorusse. Malgré une importante présence policière, nous y sommes. La lutte contre le coronavirus à la veille de la reprise du travail pour beaucoup. La France a franchi cette semaine la barre des 900 000 tests hebdomadaires. Les tests et les masques, les deux piliers de la prévention. Pour les masques, il faudrait être plus clair, dénonce Jean-Luc Mélenchon. Il était l'invité de France Inter. Dans ce journal aussi, le Tour de France, étape de montagne au deuxième jour de l'épreuve. Grimpeurs en force, public présent encore une quinzaine de kilomètres avant l'arrivée. Temps instable dans l'est, variable à l'ouest, soleil dans le sud. Les prévisions de Météo France à la fin de ce journal.
France Inter.
Peut-être 100 000 manifestants dans les rues de Minsk en ce moment. Ils étaient déjà 100 000 dimanche dernier et 100 000 aussi le dimanche d'avant dans le calme pour dénoncer la réélection d'Alexandre Loukachenko il y a tout juste 3 semaines à la tête de la Biélorussie. Des foules importantes aussi dans les principales villes du pays, malgré la police anti-émeute plus nombreuse qui a bloqué des artères de la capitale avec des blindés, malgré l'interdiction de la presse étrangère, accréditation retirée, et malgré une centaine de personnes arrêtées dès ce matin, sur place à Minsk, notre correspondant Valentin Tiblinski.
Cette 22e journée de la mobilisation provoque d'un côté la fatigue de la part de forces de l'ordre, mais aussi des manifestants qui se disent prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. La victoire pour eux, c'est d'avoir la nouvelle élection, l'élection libre et indépendante. Et aujourd'hui, vous savez, pour la première fois depuis 3 semaines, on entend des slogans un petit peu plus brutaux peut-être, qui aussi expliquent l'envie des gens de changement. Et ce que les manifestants me disent à chaque fois, chaque week-end, tous les jours qu'ils sortent, ils disent que voilà, après toute cette violence qu'on a vécue pendant plusieurs journées, 7000 personnes arrêtées, plusieurs dizaines, centaines de personnes torturées dans les centres de détention, un des slogans qu'ils utilisent, nous n'avons pas oublié, nous pardonnerons pas. Donc malgré les menaces du pouvoir d'arrêter tout le monde, d'arrêter ces manifestations pacifiques, les gens continuent, les gens sont unis. Et ils sont aujourd'hui dans la rue de Minsk, juste devant moi.
Valentin Tiblinski à Minsk. En fin de journée, les manifestants se sont dirigés vers la résidence officielle d'Alexandre Loukachenko, réélu le 9 août avec plus de 80% des voix. Plus de 300 sportifs biélorusses de haut niveau ont appelé eux aussi à de nouvelles élections. Ambiance de vote tendue, là aussi au Monténégro, où l'opposition pro-serbe espère chasser du pouvoir Milo Djukanovic, qui dirige le pays quasiment sans discontinuer depuis la fin de l'ère communiste. L'avenir politique du Liban pourra-t-il se dénouer? À la veille de la seconde visite d'Emmanuel Macron à Beyrouth, le Hezbollah se dit prêt à discuter d'un nouveau pacte politique. Il n'y a toujours pas de gouvernement au Liban après sa démission, une semaine après l'explosion dévastatrice de Beyrouth. Le président français y retourne demain. Lors de sa dernière visite, il avait demandé aux différentes confessions d'envisager un nouveau pacte politique. Naples, l'OTAN et un espion français au service de la Russie. C'est l'hypothèse sur laquelle travaille la justice française. Confirmation ce matin des autorités de la mise en examen d'un officier français pour atteinte à la sécurité. Il a été arrêté par la DGSI il y a 10 jours alors qu'il s'apprêtait à rentrer en Italie après ses vacances. Il est en prison depuis le 21 août, soupçonné d'avoir transmis des copies de documents militaires à la Russie. On en parle dans le journal de 19h de Frédéric Barrère. La reprise du travail pour beaucoup demain, avant la rentrée scolaire des enfants après-demain, rentrée inédite avec la crise du coronavirus, et le masque généralisé dans la rue, dans les classes, au travail, obligatoire à partir de mardi, pas forcément compatible avec tous les métiers, avoue la ministre du Travail. Les chanteurs d'opéra sont déjà dispensés. Elisabeth Borne va recenser toutes ses activités particulières avec les partenaires sociaux à partir de demain. Invité de questions politiques sur France Inter, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, estime lui que les gens ont du mal à s'y retrouver.
Le gouvernement porte une responsabilité terrible dans le fait que les gens ne savent plus quoi croire. Enfin, ils ont répété pendant des mois qu'il fallait pas mettre de masque. Tout d'un coup, faut en mettre tous, c'est obligatoire. Et pour terminer le tableau, ils le font dans des conditions qui sont inapplicables. Alors, dans certains endroits, c'était une rue oui, une rue non. D'une manière générale, on vous dit, le masque sera payant. Tout le monde sait que les gens pourront pas se le payer. Pour une famille de 4 personnes, le masque, comme on l'a là, là le masque bleu, là, c'est 340 € par mois. Donc, ils les ont pas. Donc, il faut le masque gratuit.
Ça dépend où vous l'achetez.
Alors, il y a un grand doute dans la population. Mais mon devoir n'est pas celui de Monsieur, Madame X, je parle pour tout le monde. Et dans ces conditions, moi je crois à la discipline sanitaire.
Jean-Luc Mélenchon avec Ali Badou a retrouvé en longueur sur franceinter.fr. Toujours sur les masques, le ministre de l'Éducation nationale s'en tient aux recommandations de l'OMS. Ce sera obligatoire à partir de 12 ans en classe. Jean-Michel Blanquer qui promet aussi dans le journal du dimanche de lancer un Grenelle des professeurs d'ici au mois d'octobre sur les revalorisations des salaires et la transformation profonde du système éducatif. 400 millions d'euros sur la table pour les salaires. C'est moins que ce qu'avait initialement annoncé le ministre. Loin du compte pour les enseignants qui attendent aussi de voir ce que le ministre entend par « revoir la gestion des ressources humaines ». Un renfort de 2800 recrutements à Pôle emploi pour accompagner les jeunes et les chômeurs touchés par la crise sanitaire. 650 embauches dès le mois de septembre. Ces 2800 équivalents temps plein seront en CDD ou en CDI. France Inter, il est 18h06. Des groupes de tête, des grimpeurs, du public au bord des routes d'écoles de première catégorie. Voilà déjà de quoi réjouir les amateurs de vélo. Deuxième jour du Tour de France. Habituellement, on attend la deuxième semaine pour ce type de parcours. Étape de montagne, 186 km dans l'arrière-pays niçois, avec l'école de la Colmiane, 1500 mètres, de Turini, 1607 mètres, et une arrivée dans quelques minutes sur la promenade des Anglais à Nice, avec, comme prévu, Jérôme Cadet, le maillot jaune, qui ne sera plus ce soir sur les épaules d'Alexander Christophe.
Oui, le Norvégien a été distancé très tôt dans cette journée très montagneuse, 4000 mètres de dénivelé positif dans le département des Alpes-Maritimes, le col de la Colmiane, le col du Turini, et puis le final. En ce moment même, nous sommes à 12 km de l'arrivée. Julien Alaphilippe, le Français, a porté une attaque il y a de cela quelques minutes. Il a été suivi par le Suisse Marc Hirschi. Les deux hommes sont partis en tête, donc pourquoi pas une victoire de Julien Alaphilippe dans quelques minutes, ici sur la promenade des Anglais. Les deux hommes comptent 10 secondes d'avance sur ce qu'il reste du peloton, qui a été très largement essoré par le train emmené à la fois par l'équipe de Julien Alaphilippe, l'équipe Quick-Step, lors des derniers kilomètres, et notamment le passage du col d'Aize, et puis l'équipe Jumbo-Visma qui a fait la course en tête, celle du favori Primoz Roglic, celle de Tom Dumoulin aussi, le néerlandais qui vient de chuter à l'instant, alors que les deux hommes de tête, Julien Alaphilippe et Marc Hirschi, viennent de basculer dans la côte des quatre chemins. Il leur reste 11 kilomètres maintenant avant de rallier la ligne d'arrivée, et Julien Alaphilippe, donc peut-être pour s'imposer ici à Nice au terme de cette deuxième étape.
Merci Jérôme Cadet en direct depuis Nice. L'US Open, c'est fini pour Benoît Paire. Selon le journal L'Équipe, le joueur de tennis français a été testé positif au coronavirus et retiré du tableau. Toujours en sport, la cinquième victoire en 7 Grands Prix de Lewis Hamilton au Grand Prix de Formule 1 de Belgique. Et puis en Ligue 1 de football, Monaco s'impose 1-0 à Metz. Bordeaux gagne 2-0 à Angers. Nantes-Nîmes 2-1, Saint-Etienne-Lorient 2-0. Les footballeuses françaises de Lyon ou les allemandes de Wolfsburg. Finale de la Ligue des champions de football ce soir. Coup d'envoi à 20h à Saint-Sébastien. La capitaine de l'Olympique lyonnais, Wendy Renard, prudente. Les finales sont toutes indécises. Et décidément, les femmes sportives à la une ce soir avec cette journée historique pour une allemande déjà. Lucie Glöckner inscrit pour la première fois le nom d'une femme au palmarès des 24 heures du Mans Moto. Victorieuse à 29 ans en catégorie Super Stock. Les 24 heures remportées par Honda. Elle était annoncée hier, elle est bien tombée dans les Alpes, dans les Pyrénées. La neige, au pic du midi en particulier. Demain, temps encore frais et venteux, nous dit Météo France, Jean-Michel Golinski.
Demain, dans des températures qui globalement plafonnent toujours sous les moyennes, le temps instable avec averses et orages va rester d'actualité sur les régions de la face orientale, notamment des Ardennes à l'Auvergne et des frontières de l'Est à la Corse. Sur le pourtour méditerranéen, le soleil va s'imposer, mais avec du vent, vers 80 km à l'heure, notamment pour le Mistral, la Tramontane et les rafales d'ouest sur les Caps Corses. Et sur une large moitié ouest du pays, l'ambiance sera variablement ensoleillée. Les températures sans grande variation vont afficher 17 à 21 degrés dans la moitié nord, 21 à 24 au sud, jusqu'à 27 près de la Grande Bleue.